Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC.
Parlons du Bayer Leverkusen, on en parle tous les lundis. C'est dur, je ne sais pas comment on peut en parler différemment à chaque fois, Polo. On ne sait plus trop quoi dire. Victoire 1-0 sur la pelouse de l'Union de Berlin. Alors, on est là face à une saison, sincèrement, les plus ahurissantes de l'histoire de la Bundesliga, si ce n'est la plus folle. Je ne sais pas si on mesure l'exploit d'une équipe jamais championne d'Allemagne dans son histoire, qui va peut-être battre non seulement le Bayern Munich avec quasiment 16 points d'avance désormais, mais en faisant mieux en termes de points que le plus grand Bayern de l'histoire.
Celui du Pankus, celui de 2012, c'est complètement 2013. Délirant. C'est en fait complètement fou. Et autant on reste malheureusement toujours sur le fait qu'ils n'ont jamais perdu de match, aussi bien toute compétition confondue. Mais en fait, on ne se rend même pas compte de ça. Ils ont juste laissé 4 matchs nuls de toute la saison en Bundesliga. C'est-à-dire que, à la rigueur, les 16 points contre le Bayern sont anecdotiques. Et c'est pour ça que parfois je défends Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est en avance sur le Nagelsmann de version l'année dernière ou des époques précédentes. Donc c'est toujours assez spécial. Mais c'est vrai que 24 victoires, 4 matchs nuls, une façon, lorsqu'ils ne jouent pas spécialement bien, de faire exploser toujours les adversaires qui se retrouvent comme l'Union ce week-end à 10 au bout de 45 minutes et durant les arrêts de jeu. Ce Bayern, la question du Bayern doit se poser, est-ce que c'est une grande équipe? Est-ce qu'on a un grand coach en devenir? Je le pense, lié évidemment aussi à sa grande expérience de joueur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est quand même un compétiteur, qui aime gagner. Et je pense qu'il arrive à transmettre ça à ses joueurs, de ne pas refuser la défaite, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois cette saison, soit en allant chercher des matchs nuls, soit en allant gagner des rencontres lors des arrêts de jeu. C'est quand même assez extraordinaire. Je rappelle, le week-end dernier, lundi dernier, on disait que sans les arrêts de jeu, Leverkusen n'aurait que 6 points d'avance sur le Bayern. Là, ils en ont 16 maintenant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, ce que je vois, c'est aussi les concepts ou les principes de jeu de Xabi Alonso qui m'intéressent. C'est de contrôler la rencontre. C'est un truc qui, moi, m'impressionne. À chaque fois, il parle de ça. C'est-à-dire que le match peut être difficile, on peut avoir des temps faibles, etc. C'est cette façon de toujours devoir contrôler la rencontre. J'ai presque envie de dire la culture du football espagnol, finalement, de faire circuler le ballon lorsqu'on y arrive, et puis de piquer, d'attaquer quand c'est le bon moment. Quand ça veut pas, on recommence, on repart, t'inquiète pas, ça va venir. Le temps, laisser le temps au temps. J'ai l'impression que Xabi Alonso, à ce niveau-là, est assez impressionnant à ce niveau-là. Et surtout, peut-être, une chose en plus, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une grande équipe? Et moi, je vais dire, Leverkusen n'est pas un grand club, c'est un club que j'adore, qui a marqué l'histoire de la Bundesliga, c'est pas la question, et qui va la marquer évidemment cette année. Mais est-ce que les joueurs qui sont sur le terrain, excepté des joueurs en devenir comme Wirtz, excepté Boniface qui est en train peut-être d'exploser, excepté un Patrick Schick qui a eu une carrière un peu en dents de scie, est-ce que le milieu de terrain Granit Xhaka, Andrić ou Palacios, c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe? J'en suis pas persuadé. Tous les joueurs ont augmenté de niveau avec lui. C'est assez impressionnant. Il y a l'explosion de Grimaldo, évidemment. Frimpong, ça reste aussi extrêmement montagne russe. Ouais. Il n'y a pas un grand gardien, Radetzky. Donc, est-ce que c'est une grande équipe? Moi, je pense que c'est un momentum qu'ils sont en train de vivre.
Ça, on saura la saison prochaine. Hein. Si on conserve l'équipe, on saura s'ils confirment ou si certains noms que tu viens de citer de joueurs arrivent à confirmer dans un club à un échelon encore supérieur. On pense à Florian Wirtz en particulier.
Ils ont battu personne en Europe.
Pour l'instant, ils n'ont battu personne. Mais bon, 41 matchs consécutifs, et ils vont affronter West Ham, qui n'est pas non plus l'épouvantail le plus redouté en Ligue Europa. Julien, est-ce que tu imagines une seconde West Ham être le premier à faire tomber le Bayer Leverkusen cette saison?
Alors, on verra. Juste pour finir, il se rapproche du record, du record absolu de matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui est de... Donc on a le Milan, le grand Milan de 91-92, 42, la Juve 43, le record c'est Benfica avec 48, donc ils sont vraiment pas loin. Hein. Tu peux aussi faire deux matchs de Ligue Europa sans perdre, par exemple, tu peux faire deux matchs nuls, tu peux aussi te qualifier encore. Une équipe de West Ham qui, vous savez, je porte pas trop David Moyes dans mon cœur. J'ai un peu de mal avec cet entraîneur-là qui joue encore comme, comme il y a 25 ans, alors qu'il a des joueurs comme Paqueta, comme Bowen, comme Kudus, qui sont des super joueurs. Donc, à mon avis, c'est pas à mon avis, sur le papier, le Bayern est favori, il n'y a aucun doute là-dessus, même si cette équipe de West Ham, elle peut être intéressante en contre aussi, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on lui demande de jouer. Mais ce qui est intéressant, surtout au-delà de ce match-là, c'est qu'entre le match entre Arsenal et le Bayern, et ce match-là entre Bayer Leverkusen et West Ham, c'est peut-être là où se joue finalement la cinquième place en Ligue des Champions la saison prochaine.
Exactement.
Parce que si les deux clubs allemands éliminent les deux clubs anglais, après, c'est donc ce qui se passera ailleurs, etc. Voilà, mais ils auront pris, les Allemands, un gros avantage sur cette cinquième place
pour la saison prochaine, de la prochaine Ligue des Champions.
Exactement, avec les Italiens, tout à fait.
Tout à fait. Un mot sur Liverpool quand même, parce qu'on en parle là dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. J'imagine qu'on a peur à Liverpool de que ce nul face à Manchester United fasse date à la fin de saison. Je rappelle que Liverpool a arraché le nul grâce à un penalty de Salah de partout sur la pelouse de United. Ils ont perdu la tête, c'est les Reds, à 7 journées de la fin. Trop tôt pour dire si ça aura des conséquences sur la course au titre. En tout cas, ça a mis un petit coup.
Oui, ça a mis un petit coup, forcément. Alors Klopp essaie de rester positif après le match en disant voilà, on a un point de plus que ce matin. Il avait raison, bien sûr, sauf qu'ils auraient dû en avoir trois de plus. C'est un match qu'ils doivent jamais, ils doivent jamais faire match nul. C'est un match qu'ils doivent gagner. Ils ont quasiment 4 d'expected goals. Ils sont largement supérieurs. Le match tourne finalement sur une erreur de leur jeune défenseur central, Kwanzaa, qui veut faire une passe à Van Dijk, qui est intercepté par Bruno Fernandes, qui marque un but somptueux, magnifique du milieu du terrain à l'aube, exceptionnel. Même si Rockin, après le match sur la télévision anglaise, disait il n'y a que Bruno qui aurait pu marquer ce but-là. Je suis complètement en désaccord avec Rockin, dans le sens, pour moi, à ce niveau-là, les joueurs du niveau de Bruno Fernandes peuvent tous marquer un but comme ça. Ils peuvent tous marquer du milieu de terrain quand il n'y a plus de gardien dans le but. On a vu par exemple, même hier avec Nottingham Forest à l'extérieur à Tottenham, Murillo, leur défenseur central brésilien gaucher, qui a presque marqué depuis son camp. Pareil, un lob sur Vicario. Voilà, pour moi, c'est un but fantastique. Je veux rien retirer à Bruno. C'est un but somptueux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est un but qui, selon moi, aurait pu être marqué par d'autres joueurs sur le terrain. Des joueurs de ce niveau-là qui scannent, qui ont cette qualité technique, ils peuvent frapper de milieu du terrain et marquer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que le match tourne là-dessus. Et après, Liverpool a deux occasions, ils prennent un but magnifique de Kobbie Mainoo, le prodige de United. Et voilà, le match se finit sur un score 2-2. Juste pour vous donner une petite stat qui finalement résume très bien, pas que ce match-là, mais finalement les trois matchs qu'on a eu cette saison entre Manchester United et Liverpool. On a eu donc le match nul à l'aller, le match nul au retour et la défaite de Liverpool en Coupe d'Angleterre 4-3 après prolongation il y a quelques semaines. Liverpool, sur ces trois matchs-là, a tiré 90 fois. Ils ont 80 frappes et ils gagnent pas un des trois matchs. Voilà, ils ont pas été en réussite sur les trois matchs. Ils auraient dû marquer plus. Ils ont pas été assez cliniques et efficaces. Et ça leur coûte effectivement assez cher. Parce que maintenant, comme on l'avait dit la semaine dernière, le favori de cette course au titre incroyable, c'est le premier. C'est toujours le premier. Que ce soit Liverpool, City ou Arsenal, le premier, ce sera toujours le favori. Et ben maintenant, le favori est passé de Liverpool à Arsenal avec, comme tu l'as dit, 7 matchs encore à jouer.
7 matchs à jouer. Moi, j'espère que lors de la dernière journée, on aura plus toujours un point d'écart entre ces trois équipes-là.
Imagine,
on referait une dernière journée absolument extraordinaire. Liverpool qui jouera à l'Atalanta, hein, qui n'est pas mis en ce moment, mon cher Johan, on en parlera également, qui a été battu ce week-end à Cagliari. C'est l'heure de la minute italienne, justement. On envoie la musique, Polo.
Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.
Lucio Dalla, Nuvolari, qui est en hommage à un célèbre coureur automobile qui courait d'ailleurs en auto et en moto dans les années 20 et 30, qui était champion du monde, qui a été un coureur très apprécié, très populaire aussi en Italie. Et ce coureur, est originaire de Mantoue. Pour parler évidemment de Mantova, dont on a déjà parlé dans une minute cette saison, qui est le premier club promu en Série B pour la saison prochaine, donc il est en Série C, il est promu en Série B. Et l'entraîneur de ce club est Davide Posanzini, qui est l'ancien adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et au Shakhtar. Et dans la même semaine, j'ai lu aussi une interview de Alberto Alequiliani. Vous vous souvenez de ce joueur formé à la Roma, qui a été à Liverpool chez Julien Laurence, à la Fiorentina, et qui est désormais entraîneur de Pise en Série B, et qui expliquait combien il a été aussi influencé par Roberto De Zerbi dans sa manière de voir le football, dans sa manière de l'enseigner à ses joueurs. Et ça suit aussi, quand Daniel Eder aussi, beaucoup de paroles sur l'influence qu'a eu Roberto De Zerbi. Les deux s'adorent, s'entendent très bien, etc. Et donc, c'est aussi pour raconter que la génération De Zerbi est en train d'arriver en Italie.
Ils sont combien, en fait, dans le siège De Zerbi, là ?
Ils sont
une colonie, c'est...
Ils sont beaucoup. Ils ont beaucoup d'idées. Et Mantova, qui est en Serie C, c'est sans doute l'une des équipes en Italie, toutes divisions professionnelles confondues, qui joue le mieux cette saison. Et avec des joueurs d'un niveau vraiment assez bas. Donc, à suivre la saison prochaine en Serie B, même si je ne suis pas certain que Bosanzini poursuive du côté de... Parce qu'il va être demandé, et peut-être même du côté de Sassuolo, d'ailleurs.
En un mot, c'est où, Mantoue ?
C'est au sud de Vérone et au nord de Bologne. C'est en Lombardie, mais c'est au sud de Vérone. Et d'ailleurs, la situation est très sympa, c'est sur un lac. Et la ville est sur quasiment posée sur un lac. Donc, c'est très sympa.
C'est chez Polo, je sais pas, tu habites à Mantoue.
Bah, la Polo. Lombardie, les Lombards, bon, c'est très bien le ça.
Ah, d'accord, bien sûr, exactement.
Et donc, nouveau Larry, le titre de la chanson et le titre du coureur automobile.
Très belle chanson.
Oui, très, très, très belle chanson.
Dans un instant, on y vient, on va parler de Bilbao, un sacré 40 ans après, avec Fred, car c'est un événement en Espagne, bien sûr. Restez avec nous. Tiens, il y a eu un but entre l'Udinese et l'Inter pour l'Udinese, qui mène 1-0.